UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est la foi, l'ingrédient pour vivre le miraculeux. Et aujourd'hui, c'est Michaël qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu Audrey Mac qui nous a raconté comment une femme a reçu un don de foi en écoutant une de ses prédications. Voilà, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Vous allez bien aujourd'hui?
Ça va très bien.
Ça va, toi aussi?
Ça va très bien, merci Frank. Aujourd'hui, nous allons parler de foi. La foi qui est un ingrédient indispensable pour vivre le miraculeux. Donc on parle de foi, on parle de miraculeux et on en parle avec toi dans la pensée du jour. Chérie, le titre de ta pensée est « La vraie foi se voit par la détermination ».
Oui, ma chère épouse, et on va commencer en lisant ce passage bien connu de la femme cananéenne dans Matthieu, chapitre 15, au verset 22. « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il en soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelle merveilleuse histoire qui nous en dit beaucoup sur la foi. Et souvent, on est comme cette femme cananéenne. On a un problème dans notre vie, on a une situation difficile et on se souvient qu'on a un Dieu surnaturel qui peut tout. Et on décide alors d'utiliser la foi. On décide de croire en lui. Et je dis utiliser la foi parce que nous avons tous la foi. La Bible dit, nous avons tous reçu une mesure de foi. Nous avons tous la capacité de l'utiliser. Et même la plus petite de ces mesures, Jésus a dit, est capable de déplacer des montagnes. Donc le problème n'est pas le fait de ne pas avoir de foi. Tout le monde l'a. Le problème, c'est que quand on commence à l'utiliser et on vient vers Dieu avec foi, « Oh, Dieu est surnaturel, il va intervenir dans ma situation, il va venir au secours de ma détresse », on prie. Mais comme cette femme, Jésus fait silence. Comme cette femme, on prie souvent, mais les circonstances ne changent pas. Le ciel semble être fermé, le ciel ne semble pas nous répondre et c'est là que ça devient problématique. Parce qu'à ce moment-là, on doute. Et notre foi est paralysée, on arrête d'être déterminé, on arrête de croire, on arrête de persévérer parce qu'on croit que finalement, puisqu'on a prié et qu'il ne s'est rien passé, on abandonne le combat. Et ce qui est étonnant de voir ici, c'est que Jésus va dire à cette femme, ta foi est grande. Pourquoi va-t-il dire à cette femme que sa foi est grande? Il va dire à cette femme que sa foi est grande parce que face aux oppositions, c'est-à-dire Jésus lui dit non, les disciples lui disent non, elle est même humiliée, je trouve, et il y a le silence, il n'y a rien, non, non et non. Je suis en territoire à l'extérieur d'Israël, je suis venu pour les Juifs, ce n'est pas mon moment de guérir et de délivrer ceux qui ne sont pas Juifs, en plus en territoire étranger. Mais cette femme, malgré que la volonté du Seigneur est non, va, au lieu d'abandonner, elle va persévérer. Vous savez, elle est comme un bulldog. On dit que les bulldogs représentent bien la foi. Ils attrapent quelque chose dans leur gueule et ils ne lâchent jamais. Impossible d'enlever. Et cette femme est comme un bulldog. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que cette femme avait pour avoir une foi aussi grande, pour être comme un bulldog et ne pas lâcher? Qu'est-ce qu'elle avait de différent? Et j'ai réalisé qu'elle avait trois choses qu'elle avait compris. Trois choses qui viennent faire en sorte que sa foi, elle va décider de l'utiliser, d'être actif et de ne pas lâcher grâce à ces trois éléments. La première des choses, bien sûr, on voit que cette femme croyait en la puissance de Dieu puisqu'elle dit et qu'elle croyait que Jésus était le Messie. elle croit que Dieu est capable, mais beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu est capable. Ça, il n'y a pas de doute. Mais cette femme ne va pas lâcher, premièrement, je crois, à cause de l'amour. L'amour qu'elle avait pour sa fille. Elle voyait sa fille souffrir, tourmentée par des démons, des mauvais esprits, et cet amour a été son moteur. Je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas, parce que derrière, il y a ma fille qui est en train de mourir, il y a ma fille qui est en train de souffrir, et je sais, Jésus, que toi, tu peux le faire. Alors, même si tu dis non, je persévérerai, je ne lâcherai pas, tu ne te débarrasseras pas de moi, même si le ciel semble me fermer, ma foi va l'ouvrir, parce que ma fille souffre, et je refuse de la laisser comme ça. Et on voit que l'amour va nous pousser à agir par la foi. Et souvent, c'est le manque d'amour qui fait qu'on décide d'abandonner trop tôt, qu'on décide de ne pas continuer à utiliser cette foi qui parfois est éprouvante face à l'adversité. Et Galates 5, 6 dit « La foi agissante par l'amour ». L'amour nous pousse à prendre la foi et à l'activer, à agir par la foi. Et c'est ce manque de compassion pour les autres qui fait que parfois on manque de détermination. Et vous allez me dire peut-être, oui, mais là, mon problème, il n'est pas pour les autres. Donc, ce n'est pas une question d'amour, il est pour moi. Mais bien souvent, j'ai réalisé que le fait de persévérer dans la prière, de persévérer dans la foi, se fera par amour, même si c'est pour nous, un problème qui nous concerne, par amour pour les autres. Ainsi, on peut voir une mère, par exemple, c'est l'amour qu'elle a pour ses enfants, qui sont encore sous sa responsabilité, qui fait qu'elle va se battre et ne pas lâcher le combat de la foi parce qu'elle pense à ses enfants et elle ne veut pas les abandonner alors qu'elle a le cancer. Donc, elle va se battre, elle va utiliser sa foi jusqu'au bout. C'est comme ça qu'un évangéliste, par exemple, qui a appelé au ministère, et il a des peurs, il va braver toutes ses peurs par amour quand il va penser à tous ces gens qui vont aller en enfer. Alors, il va continuer à utiliser sa foi au lieu de la ranger et de la mettre de côté. C'est comme ça qu'un pasteur qui est découragé peut-être par les difficultés de l'Église va continuer à marcher par la foi, à dominer tous les problèmes qu'il peut avoir, à ne pas céder au découragement à cause justement de l'amour qu'il a pour le Seigneur Jésus, comme l'apôtre Pierre. Jésus a dit « Si tu m'aimes, alors paie mes brebis ». Et ainsi, on voit que si on a l'amour, notre détermination grandira et notre foi sera agissante. La deuxième chose que je vois, c'est que pour cette femme, Jésus était son seul espoir. C'est évident qu'elle aimait sa fille et qu'elle a essayé de trouver des solutions pour sa fille. Elle est certainement allée voir des marabouts, faire des choses occultes, des exorcistes, etc. Mais quand elle entend parler de Jésus, elle sait que lui, il a délivré d'autres personnes, il peut délivrer ma vie, c'est le Messie, c'est le fils de David, c'est le Seigneur, c'est le Maître, elle le dit, il est capable de tout. Et je peux vous dire combien il est difficile d'être déterminé dans la prière et de ne pas lâcher quand on croit qu'il existe encore des solutions humaines. Cette femme était désespérée. C'est mon espoir, c'est mon opportunité, c'est la seule solution pour ma fille. J'ai déjà essayé avant. Et il ne doit pas y avoir de plan B. Et trop souvent, le plan B, c'est de dire, parfois, la médecine peut me guérir. J'ai des solutions. Mais voyez-vous, dans les pays pauvres, il y a plus de miracles que dans les pays riches parce que les gens, ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas de solution humaine, ils n'ont pas le gouvernement et l'aide sociale, ils n'ont pas les médecins et la médecine et les médicaments. Alors, quand ils entendent les promesses de Dieu, ils ne lâcheront pas parce que c'est pour eux et ils n'abandonneront pas le combat de la foi. La troisième chose, et je finis par là, c'est qu'on voit que cette femme a eu une révélation de la bonté de Dieu. Et ça, c'est redoutable. Cette femme s'est approchée de Jésus et Jésus va dire, mais vous, vous êtes des considérés comme des chiens, des gens sans dignité, vous n'êtes pas du peuple juif, vous n'êtes pas de l'Alliance, donc cette promesse n'est pas pour vous. Et cette femme aurait pu retourner chez elle, triste, humiliée, se dire « Non, mais Dieu ne m'aime pas assez, j'ai pas assez ça, je ne fais pas partie, je ne le mérite pas, ma vie n'est pas parfaite, je ne suis pas juive, etc. » Et combien d'entre nous, quand on prie et on demande à Dieu d'intervenir, on se remet en question et on abandonne parce qu'on se dit « je n'ai pas assez ça » ou « je n'ai pas assez ça ». Mais cette femme, elle a refusé de regarder à elle. Elle a regardé à quelque chose qu'elle a vu au-delà des mots durs de Jésus, d'apparence dure. Elle a vu qu'il y avait en lui, dans son cœur, la bonté de Dieu. Et comme le psalmiste dit « lève-toi pour nous secourir, délivre-nous à cause de ta bonté ». Elle a vu la bonté du Seigneur Jésus au lieu de regarder à elle. Elle a regardé à lui et elle savait que sa bonté viendrait à son secours, quoi qu'il arrive, même si elle n'est pas parfaite, même si elle n'a pas si, même si ce n'est pas assez. Et c'est ça. Frères et sœurs, je veux vous encourager. quand vous priez et que vous demandez quelque chose à Dieu, ne fixez pas les yeux sur vous, vous disant « Oh, ça ne marche pas, c'est à cause de moi, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça. » Mais gardez vos yeux sur celui qui est l'auteur de la foi, sur Jésus-Christ, et voyez à quel point il est bon. Mmh. Même si vous êtes imparfait, même s'il vous manque des choses, pensez à sa bonté. Le Seigneur est bon, et à cause de sa bonté, il interviendra. Ouais. Alors vous ne vous remettrez pas en question et vous n'abandonnerez pas à cause de vous. Que Dieu vous bénisse et pensez à ces trois choses pour ne pas mettre votre foi de côté, mais agir par la foi envers et contre tout.
Mmh. Amen, amen. Amen. Yes. La foi, hein, c'est extraordinaire quand même. Et tu as dit dans ta pensée qu'on a tous reçu une mesure de foi.
Alléluia.
Et notre verset du jour aujourd'hui dans Luc 17, 16 nous dit que si vous avez de la foi, donc c'est Jésus qui parle, comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. On voit que c'est le cas aussi dans un autre passage dans Marc 11, il parle d'une montagne carrément qui se déplace et qui mmh. change sa localisation pour se jeter dans la mer, c'est extraordinaire. Et on nous parle d'une foi de la taille d'un grain de moutarde, on sait que c'est une très petite graine et c'est suffisant parce que ce qui est nécessaire, c'est la foi. La foi grande se prouve ensuite justement dans l'action, par la détermination, par cette capacité à faire des choses extraordinaires sous prétexte qu'on croit, parce qu'on a la foi, on est convaincu, on ne lâche pas, on ne cherche pas de plan B, de plan Z, de plan X ou Y, peu importe, on est convaincu et on ne lâche pas. Et ça, c'est vraiment ce qui prouve cette taille de foi finalement.
Ben, c'est important de comprendre. Qu'est-ce que tu viens de dire, Evelyne? C'est super important et Michael a touché ce point-là aussi, c'est que pour obtenir une promesse, tu n'as pas forcément besoin d'une grande foi. Mm-hmm. Jésus a dit, si tu en as un petit peu, tu peux obtenir des choses. Mais parfois, oui, il y a le doute, l'incrédulité, il y a des plans B, il y a toutes sortes de choses qui font qu'on ne les obtient pas tout de suite. Et c'est là qu'il faut avoir, oui, on tombe plus dans le coin, dans le côté d'une grande foi, une foi persévérante. Mm-hmm. Et c'est ce que la Bible dit dans Hébreux 6, c'est que la foi, et je le dis tellement en prêchant, et la persévérance vont main dans la main. Ça dit que c'est par la foi et la persévérance qu'ils obtiennent les promesses qui étaient promises. Et puis ça, il ne faut pas l'oublier. Il nous faut un petit peu de foi pour obtenir quelque chose, mais parfois, il y a des blocages, il y a des choses qui font que notre foi est non agissante en notre faveur. Mm-hmm. Puis il faut persévérer. Quand on s'accroche vraiment à quelque chose, j'aime cette image-là de s'accrocher fortement à quelque chose. Mais on va voir obligatoirement, Dieu est fidèle à sa promesse toujours, en tout lieu, en toutes circonstances, il est fidèle à sa promesse. Ça, c'est, il faut être clair là-dessus, c'est le cas. Parfois, il faut persévérer, d'autres fois, c'est instantané. L'important, c'est de croire que Dieu va toujours être fidèle et s'accrocher à la promesse de Dieu.
Amen. Ouais. Amen. Mais la foi agit, c'est ça aussi qui est bien. Parce que quand on a cette ferme assurance, on sait que, OK, Dieu, il va le faire, mais la foi agit. Et c'est dans l'action qu'il y a la détermination et qu'il y a la persévérance. La foi ne croise pas les bras. Et c'est ce qu'on a pu voir avec la femme qui est venue voir Jésus. C'est qu'elle agit. Mmh. On ne peut pas dire qu'on a la foi et on reste là sans rien faire, sinon on ne va pas vivre ce miraculeux dont on a besoin. La foi dit à la situation, « OK, t'es là, mais moi aussi, sache que je suis là avec ma foi. » Et ça nous fait poser des actions. Et ce sont ces actions qu'on va poser, on va réaliser en fait que, comme Michael disait, notre seul espoir, c'est Dieu. Et à cause de la bonté de Dieu, cette situation ne va pas rester telle qu'elle est. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais si on regarde à la situation juste et qu'on commence à l'exalter au lieu d'exalter Dieu, mais c'est là où il y a un problème en fait. Donc notre action doit toujours être posée dans la foi en ayant le regard sur Dieu, mais il faut toujours qu'on fasse quelque chose. La foi vraiment agit et prend possession des promesses de Dieu.
Mm-hmm. C'est intéressant ce que tu dis et c'est très important justement de voir que la foi n'est pas passive. Ouais. Certains vont dire « je crois ». Et je sais que Dieu va m'exaucer, donc là, j'attends. Et on pense que la foi est passive, elle attend, il suffit de croire en fait. Mais la foi va plus loin, la foi doit se démontrer par l'action. Cette femme, elle a démontré sa foi, non seulement en allant auprès du Seigneur, en l'appelant, mais en insistant, en le suppliant, en le suivant et en argumentant même avec lui, alors qu'il lui a dit clairement que ce n'était pas possible, elle a été capable d'argumenter avec lui. On voit que ça, c'est la foi authentique, la foi déterminée. Juste dire « je crois que Dieu va agir. J'attends simplement le moment. Ce n'est pas suffisant, en fait. Il doit y avoir une démonstration de foi qui va amener la différence, qui va faire que cette graine de moutarde dont il est question dans le verset du jour va se déployer, va grandir et va produire cet arbre ensuite. Il faut la démontrer.
Oui, c'est sûr. Ce que disait Mika, que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il parlait de se rappeler de la bonté de Dieu. Mm-hmm. Et Jésus-Christ n'est pas venu faire des miracles pour impressionner les gens, pour faire des réunions, et beaucoup de ministères font ça, pour impressionner, pour attirer vers eux, alors que Jésus faisait des miracles tout simplement pour démontrer le cœur du Père. Mm-hmm. Les miracles sont juste la manifestation du cœur du Père. Et rien que ça, c'est vraiment motivateur pour notre mm-hmm. foi, parce que Dieu, on le sait, qu'il veut juste manifester son cœur envers nous. Il veut le manifester de tellement de manières. Et puis cette femme qui avait un enfant qui était malade, bah Dieu, sa volonté, c'était de le guérir. Jésus guérissait, pourvoyait, faisait toutes sortes de choses. Ce n'était pas pour faire du spectaculaire, c'était pour montrer quel est le cœur de Dieu. Donc, quand on s'approche avec cette foi aussi, elle nous approche du cœur de Dieu. Donc, beaucoup de gens passent à côté en se disant, cette fois-ci, ça ne marche pas, je vais faire autrement. Mais ce dont tu te détaches, ce n'est pas du miracle seulement, c'est de la nature et du cœur et de la connaissance du cœur de Dieu. Donc, dès que tu es déterminé, dès que tu mets à ta foi en action, tu vas voir le cœur de Dieu. Il va se révéler à toi d'une manière encore plus puissante que ce que tu pouvais imaginer. Mm-hmm. Au-delà du miraculeux, il y a bien plus l'amour du Père.
Amen. J'ai une citation aujourd'hui de Andrew Murray, qui était un théologien et écrivain sud-africain, qui a dit « La foi attend de Dieu ce qui surpasse toute attente. » Mm-hmm. Et ça, c'est extraordinaire. C'est que ça va au-delà même de ce qu'on peut attendre, de ce à quoi on s'attend. Peut-être que la femme cananéenne s'attendait à ce que Jésus allait venir avec elle dans sa maison, allait peut-être imposer les mains à sa fille ou chasser le démon. Ça a été encore mieux. Il a simplement dit une parole et dans l'heure même, sa fille était guérie. Donc on voit que très souvent, hein, quand on entend des témoignages de guérison, on voit que oui, Dieu nous a vraiment surpris. Ça a été plus extraordinaire que ce qu'on pensait. Et le miraculeux s'est produit non seulement d'une façon extraordinaire, mais souvent à toucher aussi des personnes qui étaient aux alentours. Ça a impacté la famille, ça a impacté les collègues, ça a impacté les amis. Ça. Donc Dieu nous surpasse très très souvent. Et souvent, on limite Dieu par le manque de foi qu'on peut avoir. On le limite, on le bloque, alors qu'en fait, il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, soyons persévérants, ne lâchons rien. Et puis maintenant, on va regarder le témoignage d'Audrey Mac, qui nous raconte pas non pas une histoire personnelle à elle, mais comment une jeune femme qui s'appelle Doriane a été guérie suite à une prédication qu'elle a entendue d'elle. Je vous laisse regarder. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Audrey Mac. Bonjour Audrey.
Bonjour Yveline, tu es belle et rayonnante sur ton canapé.
Merci, tu vois, je suis accordée au canapé, comme une petite abeille. Audrey, merci d'être avec nous pour nous partager cette fois-ci ton appel à la mission. Comment Dieu t'a appelé ? On le sait, tu es une missionnaire, tu es très très investie, tu ne t'arrêtes jamais, j'ai l'impression, même tu enchaînes pays après pays, que ce soit dans les pays pauvres, mais comme dans les pays plus riches, en tout cas matériellement parlant, pas spirituellement forcément, mais tu es vraiment là où Dieu t'appelle. Et aujourd'hui, tu vas nous partager comment tout a commencé, comment Dieu t'a appelé. Et avant qu'on commence l'émission, tu me racontais que quand tu étais toute petite, tu avais 6 ans, un jour on t'a demandé quel métier tu voudrais faire plus tard.
Ah, oui.
Et tu avais donné une réponse très inspirée.
Mais j'étais toute petite, je devais avoir 6 ans peut-être, dans ma cuisine. Et puis j'ai une voisine qui a demandé, ma poulette, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Et puis c'est sorti de ma bouche, je dis, moi je vais voyager partout dans le monde, mais je ne serai pas un touriste, je vais rester chez les gens. Et en fin de compte, ça paraît l'air. Ma petite voisine, elle a regardé, elle a souri. Mais c'est des années plus tard que je me suis aperçue que dans mon esprit, l'appel de Dieu était déjà la même. Dans Psaume 139, on découvre que David, il savait que dans le sein de notre mère, Là, même quand on est une masse informe, là, l'appel de Dieu est déjà là en
Amen.
Nous.
Amen.
Notre destin a déjà été fait, a déjà été décidé. C'est Dieu qui nous donne cet appel, même dans le sein de notre mère.
Exactement.
Donc, c'était là.
Exactement. Et toi, tu as quitté, tu as connu le Seigneur à l'âge de 23 ans.
Mm-hmm.
Et puis, le Seigneur t'a appelé aux États-Unis. Tu savais pas où, tu savais pas trop comment, mm-hmm. mais très vite, en fait, tu as su que tu devais faire une école biblique, c'est ça?
Ben oui, en fin de compte, école biblique, je savais même pas ce que c'était. Et ça a été vraiment, je vois l'orchestration. Dieu, comme je dis toujours, il est meilleur qu'un GPS, parce que son orchestration est impeccable et magnifique. Et
Amen.
Puis, j'ai rencontré une dame alors que je partais pour les États-Unis. Vraiment, les gens me disaient, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas. Où tu vas aller? Je ne savais pas. Je savais simplement que je devais partir aux États-Unis. J'avais quitté mon boulot, j'avais fait mes valises. Et alors que j'étais en route, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, non, vous devez aller à l'école biblique. J'ai dit, c'est quoi ça? Et bien, en fin de compte, j'ai atterri dans une école biblique. Elle a fait en sorte qu'elle m'a convaincue que c'est ce que je devais faire. Et c'était le Saint-Esprit aussi,
oui,
qui a fait un travail vraiment sur moi. Et puis elle a contacté une famille qu'elle connaissait à Tucson, Oklahoma, pour m'accueillir pendant un an. Et puis j'ai été dans une école biblique. Et je voudrais dire en fin de compte que ça s'est fait par hasard, comme dirait, ou par coïncidence, mais vraiment par, c'était l'orchestration de Dieu.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a dû me faire, j'ai dû avoir comme un lavage de cerveau.
Oui, c'est ça.
Parce que j'ai grandi dans un milieu ou dans un, où l'impossible, on n'en parlait jamais. S'il y avait quelque chose, je me rappelle avoir grandi en me disant, pourquoi on peut pas faire ça? Puis on me disait, ben, cherche pas à le faire. Si ça n'a pas été fait, ça peut jamais être fait. Tu vois, c'était l'impossible, c'était non.
Mmh.
On posait pas de questions. Il fallait pas essayer de faire ce qui a jamais été. Mais bref, on nous apprenait à être médiocre au lieu d'être excellent. Et puis moi, j'étais pas à l'aise. Je me rappelle, j'avais en tant petite enfance. Mais donc le Seigneur m'a envoyée aux États-Unis où les gens rêvent, voient l'innovation, l'esprit du pionnier. Dans une école biblique.
Oui.
Et c'est ça, je dis, c'est dans cette école biblique que j'ai enfin découvert mon appel.
Mmh, que l'impossible était possible.
Que l'impossible était possible, et je dirais même mieux, parce que je reçois souvent des emails de gens qui disent, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le ministère, ou qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je sais ce que je dois faire dans la vie si je suis appelée au ministère, et puis comment commencer, puis tout un tas de questions comme ça de jeunes qui ne savent même pas comment. Et puis moi, je dis toujours, d'abord, je rends grâce et je remercie Seigneur pour enseignemoi.com,
mmh.
parce que les gens peuvent se nourrir de la parole au biais de cette chaîne télé.
Amen.
Et de ce site internet, mais il n'y avait pas de enseignemoi.com à l'époque.
Ben non.
Il n'y avait pas d'école biblique que je connaissais à l'époque en France.
Mmh.
Pas qui enseignait la parole et l'esprit.
Ouais.
Et puis donc, dans cette école biblique, là où j'ai passé un an, eh ben ça m'a fait un lavage de cerveau. C'est là où j'ai découvert qui j'étais en Christ, ce que je pouvais faire en Christ, que l'impossible, ça plaisait à Dieu, que lui, il était un Dieu d'impossible. Et c'est dans cette atmosphère de foi, comme je dirais, comme d'une serre spirituelle,
mmh. Mmh.
dans une bulle spirituelle, c'est là où c'était si facile d'entendre Dieu.
Oui.
Et c'est là que j'ai découvert que Dieu m'a appelée.
Mmh.
Parce que dans cette église, qui était une église très branché dans la mission, il faisait des petits voyages de mission à court terme, et puis je suis allée dans un petit voyage à Haïti,
mm.
et là, sous une hutte, dans un village, j'ai entendu la voix qui m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres.
Ok, c'était très clair, là, tu as reçu
ah,
ton
ouais.
appel.
Et comme je dis aux gens, si vous êtes appelés, vous savez que vous savez que vous savez que vous
mm-hmm.
savez, c'est pas vos parents qui peuvent vous appeler, c'est pas votre pasteur qui peut vous appeler, c'est pas... Personne ne peut vous appeler, c'est Dieu qui vous appelle. Et vous le savez, vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que je suis appelée. Non, vous le savez, comme votre nom est Monique, ou votre nom est Evelyne mmh. ou Audrey.
Mmh.
Moi, je sais que je suis Audrey, et je sais que je suis appelée à être missionnaire.
C'est une certitude pour toi.
Mm-hmm. Et ensuite, tu rentres d'Haïti et puis tu embarques dans une troupe théâtrale.
Oui, j'ai d'abord fini mon diplôme. J'ai fini le diplôme, ma formation qui m'a vraiment ancrée, m'a donné une fondation dans la parole. Mm-hmm. Ça m'a donné un amour, ça m'a permis de développer cette... Parce que j'ai remarqué quelque chose, je parle dans certains pays en Europe où aller à l'église... Ce n'est pas quelque chose, ben on fait de temps en temps, c'est pas, on n'en voit pas la nécessité. Mmh. Et en tant que Française, alors que je vivais, j'aimais Dieu, j'étais chrétienne, j'avais accepté le Seigneur, les premiers 9 mois de ma vie, le dimanche à l'église, c'était pas quelque chose que je pensais que c'était nécessaire. Mmh. C'est quand j'étais à l'école biblique, tout d'un coup, ben j'ai découvert que être à l'église, c'était tellement important qu'on tout d'un coup on se greffait dans le corps du Christ, c'était là qu'on pouvait servir, apprendre qui nous étions, étions. Et puis je vais un pas à l'avant, aller dans un collège biblique aussi. Mm-hmm. Et dans un bon collège biblique,
oui,
dans une bonne, parce que il y a des écoles bibliques qui vont vous remplir de plein de trucs intellectuels.
C'est ça, que de la connaissance.
De la théologie qui ne sert à rien, qui va vous handicaper plus qu'autre chose, vous remplir de notions religieuses, de doctrines, comme Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est la doctrine qui vraiment va vous handicaper plus qu'autre chose. Je remercie le Seigneur qui m'a guidée dans une école et demandez au Seigneur, guide, Seigneur, quelle est une bonne école pour moi?
Amen.
Il y en a maintenant, il y en a des bonnes.
Mm-hmm. On va parler du Saint-Esprit, on sera rempli du Saint-Esprit.
C'est voilà, une école qui valorise la parole vraiment et que ce soit du pratique et la communion avec le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Mm-hmm. Et puis de là, j'ai eu vraiment le prochain pas où Dieu m'a mis en avec un groupe. C'était un groupe d'évangélisation et c'était un groupe d'artistes, de théâtre, de danse. Mais c'était, en fin de compte, c'était un spectacle Broadway, à la Broadway, mais d'une qualité professionnelle.
Wow.
On est allé avec cette équipe, on est allé Carnegie Hall. Le Carnegie Hall, c'est dans une ville, je crois que c'est dans Pittsburgh, où il y a les plus grands talents, que ce soit danse, musique et des philharmoniques, qui ont le droit d'être dans ce hall-là. Mm-hmm. Et puis nous, on est allé dans les théâtres du Bolshoï en Russie.
Ouais.
On a eu des portes ouvertes parce que la qualité de ce spectacle, mais c'était l'évangile au travers du mime, de la danse, des spectacles et tout un tas. Et puis moi, j'ai eu l'opportunité, après avoir été fidèle pendant un an, à plier des t-shirts et à vendre des CD VHS, Dieu m'a donné un rôle, en fin de compte, où j'étais sur l'estrade à faire de la danse et du théâtre et du mime. Et on a vécu des choses magnifiques.
Et t'es resté combien d'années avec eux?
Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et là, on a été dans toute l'Europe. On a fait un tour européen. On est allé en Finlande, en Suède, en Norvège, en Norvège, en Russie. Après, c'était juste on est allé en Russie, en fin de compte, dans des pays. Pendant que c'était
le communisme régnait,
on avait le KGB qui nous suivait, il y avait des trucs, mais on a vécu des choses du style James Bond, tu vois, vraiment.
Et puis au bout d'un moment, le Saint-Esprit te dit que c'est terminé avec eux.
Voilà, il m'a dit maintenant, c'est le temps. Bah, j'ai versé une petite larme parce que c'était des moments formidables pour moi où j'ai appris des choses, comment travailler en équipe, la vie de c'est vraiment comment une église est supposée fonctionner. C'était ça, en fin de compte. Et on a lié des amitiés, des choses fantastiques. Et puis ben de là, j'ai fait une formation, parce que je savais que j'étais missionnaire. Donc j'ai dit que j'ai fait une formation en tant que missionnaire. Mm-hmm. J'ai appris plein de choses. Comment être missionnaire, comment aller sur le champ de mission. Mm-hmm. Parce que c'est pas évident.
Non, c'est sûr.
Être en tant que femme et être missionnaire, il y a des choses que l'on doit savoir. Mm-hmm. Moi, je dis aux gens, ben, si vous êtes jeune et que vous savez que vous êtes appelée à être missionnaire, allez dans des voyages, des petits voyages de mission, que ce soit une semaine, 2 semaines, 1 mois.
Pour se former?
Pour vivre des choses, pour voir vraiment est-ce que la mission est pour moi. Ouais. Et puis vraiment pour... Et puis en tant que jeune ou que ce soit moins jeune, je dis, ben, commencez déjà par un voyage à court terme.
Oui.
Quelque chose où vous mettez les pieds dans l'eau. Et c'est déjà un bon commencement. Et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que c'est que la mission.
Oui.
Et puis, je crois qu'il y a beaucoup plus de... Puis, je veux encourager les églises à faire ça. À faire des voyages mission à court terme. À avoir des gens de vos églises, parce que ça les sensibilise, ça leur permet de voir ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout du monde, parce que des fois, on a tendance à être replié sur notre nombril ici. Et ça nous ouvre les yeux sur le monde. Et puis, en fin de compte, quand j'ai commencé dans la mission, ben, j'ai commencé en Albanie. Puis, on voit aussi des photos, là. Et puis, en Albanie, je suis restée 9 mois, puis j'ai fait plein de choses. Parce qu'au début du ministère, en fin de compte, Dieu nous permet de faire plein de choses.
On touche à tout.
Vas-y.
Je dis, on touche à tout.
On touche à tout, oui. Ben, j'avais un ministère dans les orphelinats. Parce que j'avais eu de l'expérience dans le théâtre. Donc, j'ai enseigné les gens comment faire du théâtre. On était dans les rues. Wow. On voit là une image où j'avais écrit des pièces de théâtre dans la rue. Et puis les gens dans la rue, ben à chaque fois comme à Paris, hein, s'il y a quelques personnes qui se réunissent, qui font un petit peu de la danse, du break dance ou du théâtre ou quoi que ce soit, ben les gens se réunissent. Et puis de là, on a vu plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et puis on a fait même dans un théâtre, on voit la photo d'en haut, là où j'avais enseigné, en fin de compte, c'était à Noël. Qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Et puis j'avais enseigné, on avait fait, c'était formidable, plein de gens qui étaient venus au Seigneur. On voit la dame là qui avec son petit fuseau, on est allé dans les montagnes où personne n'avait jamais mis le pied. On est allé dans les villages à sac à dos pour prêcher l'évangile. Et puis on a vécu des choses formidables.
C'est merveilleux.
Et puis de là, ben, il y a eu la prochaine étape où je suis allée en Inde. On voit là une photo où je suis en Inde devant le Taj Mahal.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est quand on a un appel, des fois Dieu nous donne des déjà-vus. Et je sais pas si ça t'est arrivé, j'en suis persuadée, que des fois il y a des choses que tu vois. Je me rappelle m'être vue toute petite devant le Taj Mahal. Une autre fois, je m'étais vue quand j'étais là en Russie sur la place rouge. J'ai eu comme un déjà-vu. Je dis, je me suis déjà vue là, mais pourtant, je n'ai jamais mis le pied. Et c'est ça, en fin de compte, si vous avez ce genre de déjà-vu, vous dites, oh, je ne suis jamais venue ici, mais j'ai l'impression que j'ai déjà été là. C'est, en fin de compte, c'est une confirmation de Dieu qui te dit, tu es au bon endroit en train de faire la bonne chose. C'est Dieu qui te dit, tu es en plein centre de ma volonté.
Amen.
C'est déjà-vu qu'on, des fois qu'on est en train de vivre, ben, c'est Dieu qui dit, ouais, qui est en train de faire ma volonté.
Amen. Et y a eu l'Inde. L'Inde, on en a
beaucoup
parlé,
oui.
Mais l'Inde, c'est quand même un gros morceau parce que Dieu t'avait vraiment donné un cœur pour l'Inde. Et là, en Inde, ça a été particulier. Ça a été ta première mission en solo, entre guillemets, dans le sens où le Saint-Esprit t'a dit, tu vas être complètement dépendant de moi, de A à Z, financièrement, mais même dans tes déplacements, dans ce que tu allais faire. Tu étais complètement dépendante du Saint-Esprit.
Et je crois, en fin de compte... Il n'y a pas longtemps, j'ai enseigné tout un cours sur le ministère itinérant. Et je disais, Seigneur, je referai des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a à dire. Il n'y avait rien du tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, dans Marc 6, tu as tout ce dont tu as besoin. Et j'ai découvert que dans Marc 6, c'est Jésus qui enseigne ses disciples qu'est-ce qu'il doit faire. Il les envoie en mission. Et une des premières choses qu'il leur dit, il dit, ne prenez pas de sac, prenez pas de manteau, prenez même pas une deuxième paire de souliers. Et prenez pas d'argent. Et puis les envoyer vraiment là, à l'aveugle, entre guillemets, une foi complètement aveugle, et c'est ce que le Saint-Esprit a fait avec moi. Quand j'étais en Inde, toute seule, je connaissais personne, il m'a dit, ne reçois aucun fonds des États-Unis, rien du tout, fais-moi confiance. Et puis de là, vraiment, c'est là où j'ai appris à faire confiance au Saint-Esprit, où j'ai vraiment, il me disait des fois, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ben moi je connais quelqu'un dans telle ville, puis il m'écrivait le nom de la personne sur un bout de papier. Alors j'avais le nom de la personne, et puis après le Saint-Esprit me dit, bon, va dans le train, sors du train, et puis voilà, va trouver cette personne. D'accord, je prends le train, 3 heures de train, je sors du train, et puis maintenant quoi?
Ben oui.
Puis il me dit, va près de cette voiture. Je vais près une voiture blanche, puis il y avait derrière, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alors je dis, ah ben ouais, bon, je me tiens derrière la voiture, puis j'attends. Puis il y a deux bonhommes qui arrivent, qui me disent, j'ai dit, monsieur, excusez-moi de vous parler, est-ce que vous connaissez cette dame? Ils me disent, ah oui, on la connaît très bien, on vous amène chez elle. Puis je rentre dans la voiture, ils me déposent chez cette dame, Et puis, je reste chez elle, elle m'accueille. Et puis, on m'avait donné le nom d'un autre pasteur en me disant, eh ben, ce pasteur-là, on l'a connu il y a 20 ans. On ne sait pas s'il est toujours vivant, mais voilà, je te donne le nom. C'était pasteur Nazim. Et puis, dans une ville qui a 1 million d'habitants, tu vois, il s'est trouvé quelqu'un sans annuaire téléphonique.
C'est fou.
Pas d'Internet à l'époque, c'était 1994. Mmh. Et puis donc, je lui dis, ben, je connais le nom de cette personne. Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, ben, le Saint-Esprit me dit, ben, commencez à conduire dans la ville, moi je vous guide. D'accord, on va dans la voiture, on conduit. Et puis tout d'un coup, il y a un portail qui dit dessus Maranatha. Et puis le Saint-Esprit me dit arrête-toi là. Je dis d'accord, je m'arrête, on sort de la voiture, puis je vais voir le portier. Puis je dis excusez-moi de vous déranger, vous connaissez ce monsieur-là, pasteur Nazim? Il me dit ah oui, c'est le directeur de notre école. je lui dis vous pouvez aller le chercher, puis il est allé, puis du coup on est devenu ennemis, puis ce monsieur il m'a reçu chez eux, je suis restée chez eux, puis j'ai enseigné dans leur école pendant 2 mois et demi, et puis ce jour-là, des fois, j'écris toujours à sa femme, et puis des aventures comme ça, c'était d'une aventure à une autre, et en fin de compte, ça m'a même ouvert des portes de là à faire des campagnes évangéliques avec des ministères comme, je ne dis pas les noms parce que ce sont des noms très connus, mais de là, ça a été vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée, mais j'ai dû apprendre cette leçon, que c'était Dieu qui était ma source, c'était à lui que je devais me confier, pas à l'homme, c'était lui qui ouvrait les portes, et on doit tous dans la mission et dans le ministère, je pense passer par là et c'est important.
Et dernièrement, il y a environ 10 ans, le Seigneur t'a rappelé vers la francophonie, donc un autre type de mission, et là c'est ce que tu fais actuellement. On a quelques minutes pour parler de comment ça s'est passé cet appel pour la francophonie?
En fin de compte, en 1987, j'avais reçu une parole de prophétie de mon pasteur qui m'a dit Dieu te rappelle vers ton peuple. J'avais pas bien compris, donc j'avais mis la parole sur l'étagère. Et c'est 20 ans, presque à la semaine près, je suis à Genève, derrière un pupitre, où j'enseigne pour la première fois en français, et j'entends le Seigneur qui me parle derrière, qui me dit, c'est ça dont je t'ai parlé il y a 20 ans, je te rappelle vers le peuple francophone. Alléluia. Et c'est intéressant parce que maintenant, ça fait 11 ans que le mon mandat, c'est la francophonie. J'ai à cœur la francophonie, et même le premier voyage que j'avais fait en Haïti, où j'avais reçu mon appel en tant que missionnaire. J'étais partie de là parce que mon cœur, j'avais tellement aimé, j'avais reçu mon appel et j'ai dit, je reviens à Haïti. Et puis des années se sont écoulées, puis je ne suis pas revenue à Haïti, puis je me suis sentie mal en disant, mais j'avais dit aux gens que je revenais à Haïti. Et c'est 25 ans plus tard qu'un pasteur qui est un ami à moi et a commencé une école biblique à Haïti. Et puis maintenant, depuis 2012, j'y retourne presque 3 fois par an. Et puis on voit une photo, là, voilà, j'ai fait une conférence de femmes où on enseigne il y avait presque 1000 personnes là, 1000 femmes qui avaient faim pour le Seigneur, une école biblique avec des centaines d'élèves, des pasteurs qui viennent de partout d'église, et puis la francophonie, c'est le moment pour la francophonie.
Amen. Et on voit que Dieu aime la francophonie, parce que quand même, il est venu te chercher alors que tu étais dans des peuples où on peut se dire, mais il y a un vrai besoin dans ces peuples, on parle de l'Inde, on parle...
Le Vietnam, la Birmanie...
Il y en a eu tellement. Il y en a eu 50, tu me disais plus de 50 pays.
En comptant tous les pays, je me suis arrêtée un petit peu de compter, mais je crois que ça a dépassé la cinquantaine.
C'est énorme. Mais Dieu t'appelle là pour la francophonie. Et vous qui êtes francophone, qui nous écoutez, Audrey, Dieu l'a déplacée pour nous, pour la francophonie. C'est parce que Dieu aime la francophonie, vraiment. Et j'aimerais vraiment vous dire que la mission, c'est aussi en francophonie, dans des pays qui ont l'air très riches matériellement, mais spirituellement, qui sont désespérément pauvres et qui sont affamés et assoiffés de la parole de Dieu. Donc Audrey, là, t'es en plein dans... Tu me disais, t'as l'impression que c'est comme si ta mission... Pourquoi Dieu vraiment t'a appelé, c'est vraiment maintenant que tu es en train de le faire dans la francophonie. Et on te remercie pour ce que tu fais pour la francophonie. Merci d'être disponible. Et merci de nous avoir partagé un bout de ton histoire, de cet appel extraordinaire que Dieu a mis sur ta vie. Donc moi, c'est un témoignage qui m'a énormément touchée parce que cette jeune femme, vous l'avez vu, sa sœur a eu ce don de foi lorsqu'elle a entendu Audrey prêcher. Et on voit que justement, la foi, tout à coup, peut produire quelque chose d'extraordinaire. Cette petite sœur qui va et qui impose les mains à sa sœur aînée qui est malade, ça, c'est la foi, c'est extraordinaire. Et moi, ça m'a beaucoup touchée de voir que Dieu est passé par cette petite fille. Audrey ne savait pas exactement l'âge qu'elle avait, mais la petite sœur de Dorian, Dieu est passé au travers d'elle pour guérir Dorian. Et c'est pour montrer qu'en fait, la foi n'a pas de limite. Un enfant peut avoir la foi tout comme un adulte. Et d'ailleurs, souvent, on voit que les enfants ont plus de facilité à croire que les adultes. Mais à la maison, je veux vraiment vous encourager. Si vous passez par un temps difficile et vous avez besoin d'avoir la foi, justement, vous ne la sentez peut-être pas, vous avez l'impression que vous avez plus de doutes que de foi, finalement, en vous, je veux vraiment vous encourager à réécouter la pensée du jour de Michaël pour vous saisir de ces clés dont il a parlé, pour pouvoir vraiment faire grandir la foi et à être persévérant, à être déterminé, ne lâchez rien, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous ressentez dans votre corps, peu importe ce que les symptômes crient, je veux vous encourager à ne rien lâcher. Dieu veut vous guérir, Dieu peut vous guérir, ça on le dit très très souvent sur ce plateau et j'aimerais vraiment de tout mon cœur que vous puissiez expérimenter ce miraculeux qui va dépasser toutes vos attentes, comme on l'a vu dans la citation du jour. Donc soyez fortifiés, soyez déterminés, ne lâchez rien, ne laissez pas tomber. Si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, ça s'accomplira forcément plus tard. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à vous pour cette émission. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour encore de merveilleuses émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite un formidable week-end dans la présence de Dieu. Et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.